Et les midis, c'est reparti. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Tout à l'heure, je recevrai la romancière Natacha Apana, prix Femina pour son roman La nuit au cœur. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Se tiennent en ce moment les Assises nationales des écoles d'art et de design, un temps d'échange important pour le secteur qui fait face à de nombreuses questions, budgétaires notamment. Il faut préciser que LFI a déposé à l'Assemblée un amendement pour 16 millions d'euros supplémentaires pour les écoles territoriales qui a été rejeté. Mais le rapporteur, Erwan Balanan, a aussi déposé un amendement pour 4,5 millions supplémentaires qui a été cette fois-ci accepté. L'avenir des écoles d'art en France, c'est le dossier du Point Culture du jour. Bernard Rudiger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sculpteur, mais vous êtes aussi directeur de recherche de l'unité art contemporain à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon. Se tiennent en ce moment les Assises nationales qui rassemblent toute la filière avec comme enjeu penser l'avenir de l'enseignement artistique public. Alors pour rappel, l'enseignement artistique public, c'est 44 écoles supérieures d'art et de design, 26 classes préparatoires, 54 écoles de pratique amateur. Ce réseau public maille l'ensemble du territoire en France. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui ce réseau est en danger ?
Oui. Plusieurs écoles ont fermé ces dernières années, dont la dernière est celle de Valenciennes, une des plus anciennes académies françaises. C'est donc un réseau en danger aussi par rapport à sa particularité, c'est-à-dire celle de couvrir tous les territoires français, ce qui est quand même une singularité en Europe très importante de l'initiation à la formation supérieure. On a aussi un ensemble très rare et de très grande qualité qui est effectivement en danger.
Mais en danger à cause de raisons budgétaires principalement ?
C'est une des raisons principales, donc disons que pour resituer l'histoire des écoles, les écoles naissent comme des écoles territoriales, dans la plupart au XVIIIe siècle. Et donc, elles sont très liées à des économies locales, dans les cas de mon établissement, par exemple, la décoration de la soie à Lyon. Et ces écoles se développent en couvrant tous les territoires au XIXe et XXe siècle, avec une forte participation de l'État au XXe siècle, qui ouvre des écoles aussi dans des zones où l'enseignement artistique n'est pas couvert, comme par exemple Limoges ou Dijon. Donc, ces réseaux forment des professionnels de la création, c'est-à-dire des personnes qui sont des artistes, en très grande partie, mais aussi des penseurs critiques et des acteurs de la culture en général. Et cette situation change autour des années 2000-2010, quand l'enseignement public supérieur rentre dans les projets de Bologne. Et donc les écoles d'art dépendaient avant que du ministère de la Culture, dépendent aujourd'hui des deux ministères, donc le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et cette évolution change les statuts des établissements et change aussi la maquette pédagogique. L'évolution est très intéressante, mais n'est pas accomplie. C'est-à-dire qu'on a créer la licence, les masters, qui sont aujourd'hui intégrés à l'enseignement supérieur, mais la recherche est restée encore en chantier. Cela amène à des questions des statuts, des profs par exemple, et des statuts d'établissement qui produisent des problèmes, c'est-à-dire l'enseignement ne peut pas inclure la recherche hors qu'on la pratique, mais aussi les établissements ont été créés, surtout pour les écoles régionales, comme des établissements publics fondés par l'État, souvent différents pouvoirs locaux. Et ces établissements ont été créés avec des participations fixées en chiffres. Seulement qu'aujourd'hui, l'inflation, l'augmentation des coûts des énergies, la loi Guérini et d'autres éléments font aussi que les écoles sont aujourd'hui en déficit et donc en danger.
Est-ce qu'il y a des débouchés à ces écoles d'art, les étudiants, est-ce qu'ils sont accompagnés vers le monde du travail ?
Absolument. Disons, les écoles françaises sont des écoles qui ont des très très bons résultats. Ça dépend comment on calcule, comment on évalue. C'est ça les vrais problèmes. C'est-à-dire, on ne peut pas évaluer les formations artistiques comme on évalue, par exemple, des métiers qui sont demandés par l'industrie ou des métiers qui amènent à des CDI. Les artistes sont des indépendants et sont des grands inventeurs de métiers. Donc, nous, on forme des personnes qui, 5 ou 10 ans après, vont inventer des domaines spécifiques dans lesquels ils travaillent de façon autonome. Il y a des difficultés économiques réelles, je veux dire, le monde de l'art et du design est un monde complexe, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de débouchés. Au contraire, il y a de plus en plus de demandes. La demande est en forte augmentation d'accès aux écoles et l'inventivité des métiers est en forte croissance. Donc les écoles forment beaucoup d'acteurs de la culture aujourd'hui.
Alors parmi les grandes questions contemporaines, il y a celle de la production qui se pose beaucoup et dans beaucoup de domaines artistiques. Comment dans les écoles d'art on pense la production aujourd'hui? Est-ce que par exemple vous poussez vos élèves à produire moins?
Ah, la question écologique et plus générale, la question des productions est extrêmement présente dans les écoles. Les écoles d'art sont des écoles qui sont structurées par des enseignements professionnel. C'est-à-dire que des artistes professionnels, moi je suis sculpteur, je suis actif en tant que sculpteur et donc j'enseigne. Ces liens entre profession et enseignement est très important et amène à une véritable capacité d'osmose des écoles avec les enjeux contemporains. Donc aujourd'hui, la question de l'écologie, la question de la surproduction, la question de la des genres, la question de la critique.
Oui, des disciplines.
Ce n'est pas tout à fait une question des disciplines, c'est-à-dire les disciplines sont des ensembles stratifiés, un savoir stratifié qui s'est créé dans un temps long. En école d'art, ce qui est au centre est la capacité de l'individu à inventer sa propre discipline. Donc nous accompagnons en tant que professionnels des personnes qui recherchent dans des domaines qui sont constamment au contact de la réalité sociale. Donc aujourd'hui, nos écoles, par exemple, ont inventé, mais déjà il y a 6 ou 7 ans, des matériothèques, par exemple. C'est-à-dire, dans mon école, comme dans plusieurs écoles, ça a été exporté en toute Europe depuis, mais on a créé un lieu où on récupère, donc les récupératèques sont des lieux où les étudiants construisent des économies de l'échange des matériaux, par exemple. La question des matériaux périssables, non pérennes, sont une question centrale, autant en design qu'en art. Mais même l'économie artistique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on produit? Vous pouvez constater que dans l'art contemporain, aujourd'hui, la performance ou l'action sont au centre des préoccupations. En école d'art, les étudiants sont porteurs de ce type de problématiques. Donc, étudiants et étudiantes sont extrêmement avisés, extrêmement présents sur ces questions.
Bien, merci beaucoup Bernard Rüdiger pour toutes ces informations.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, une enquête de Libération révèle le management brutal du cabaret Madame Arthur à Paris.
Oui, le quotidien pointe du doigt les agissements de Fabrice Lafont qui a repris les rênes de ce cabaret mythique créé en 1946 dans le quartier de Pigalle. Il lui est reproché d'avoir insufflé au fil des années un climat de travail délétère pour les drag queens et les drag kings qui s'y produisent, en voulant par exemple leur faire signer des contrats d'exclusivité, en reprochant à certains des shows trop politiques ou en menaçant à plusieurs reprises de fermer le lieu. Ce management musclé a ainsi amené une 20aine d'artistes et de salariés à quitter Madame Arthur au cours des 18 derniers mois. Si les personnes interrogées rappellent le succès indéniable de la formule proposée par Fabrice Lafont ayant permis de faire revivre ce lieu, tous déplorent le fait que des gens aient à souffrir de leurs conditions de travail dans un endroit, je cite, où les personnes vulnérables sont d'habitude les reines, comme le rappelle un des témoignages relayés dans l'enquête.
Et pour finir, Marie, direction le Caire à présent, où le grand musée égyptien vient d'ouvrir ses portes.
Oui, inauguré en grande pompe ce week-end, le plus grand musée archéologique du monde vient d'accueillir ses premiers visiteurs ce mardi dans la capitale égyptienne. Érigé sur un terrain de 500 000 mètres carrés, sa construction aura duré 20 ans et coûté plus $1 milliard. Pour raconter les 5 millénaires de l'Égypte ancienne, ce ne sont pas moins de 50 000 objets antiques qui sont exposés au public. Les visiteurs sont notamment accueillis à leur arrivée par une impressionnante statue de 11 mètres de haut représentant Ramsès II et pourront aussi admirer la collection presque au complet des trésors de Toutankhamon réunis pour la première fois. Derrière ce projet pharaonique, deux principaux enjeux pour l'Égypte: faire du pays le centre de l'égyptologie et redynamiser le secteur touristique à la peine depuis 2011.
Merci Marie, on se retrouve demain.
À demain.
Pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h, vous écoutez France Culture.